Mathieu Méchin, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes donc médecin spécialisé donc au service de médecine tropicale et du voyageur au CHU de Bordeaux. Et vous allez nous parler d'une espèce que vous connaissez tous, le moustique tigre, et de sa, comment dirait-on, de sa surveillance des alertes et des systèmes finalement que l'on met en place pour essayer d'avoir le moins de risques sanitaires et notamment possible avec l'invasion entre guillemets potentielle de cette espèce.
C'est ça.
C'est bien ça. Bon, ça va.
Très merci. Bien. Merci de cette invitation. Voilà, donc j'ai essayé de préparer quelque chose d'assez concis selon les consignes des organisateurs autour du risque dit moustique, notamment en Gironde. Suite à l'implantation du moustique tigre, donc Aedes albopictus, dans le département de la Gironde, ce qui suit en région son implantation l'année dernière dans le Lot-et-Garonne. Donc, peut-être que tout le monde connaît le moustique tigre, n'ayant pas cet élément en tête, j'ai préféré faire un petit point de rappel sur les caractéristiques de ce moustique, donc moustique tigre ou Aedes albopictus, tigre du fait de son zébrage noir et blanc. Voilà, même si les tigres blancs sont moins nombreux que les autres. Donc c'est un moustique de petite taille qui est plus petit que le moustique commun, qui fait à peu près 5 mm. Voilà, quand on prend une photo, on le compare souvent à une pièce de 1 centime, qui doit faire environ 16 mm. Voilà, donc il a un comportement assez agressif, ce moustique, et il pique en journée. Ce sont souvent des piqûres assez douloureuses, voilà, contrairement à d'autres moustiques potentiellement. Il a une mobilité faible, en tout cas en vol direct, d'une centaine de mètres, quelques centaines de mètres. Par contre, il prend facilement la voie des trajets, soit en voiture, le plus souvent en voiture, soit aérien. Donc voilà, c'est pour ça que la surveillance, on en reparlera un peu plus tard, est également dirigée.
Très mauvais bilan carbone pour le moustique tigre.
Au niveau des axes routiers. Voilà, hébergez-vous un moustique tigre dans votre voiture. Très bien. Et donc, élément important, donc c'est un moustique originaire d'Asie du Sud-Est, tropicale, mais qui est assez plastique, donc qui peut s'accommoder des températures plus tempérées sous nos latitudes. Et même si les gîtes initiaux étaient naturels, les troncs d'arbres notamment, sous certaines feuilles, il a des gîtes anthropiques, ce moustique, des gîtes artificiels créés par l'homme. Voilà. Oui. Vous m'entendez bien, hein? Oui. Et donc ça, c'est un point important, notamment dans l'information et la sensibilisation du public. Et l'autre élément important, et qui fait le lien entre, ce moustique et les aspects sanitaires, c'est qu'il est dit compétent pour un certain nombre de maladies, et des maladies virales, vectorielles, finalement, transmises par ce moustique, en l'occurrence le moustique Aedes albopictus, mais qui peut être d'autres types de moustiques. Aedes aegyptus peut également transmettre certains de ces virus. Quand je parle de certains de ces virus, je pense notamment au virus de la dengue et du chikungunya, dont il y a actuellement des épidémies plus sur le continent américain, et notamment au niveau de l'arc caribéen. Et ce qui renvoie finalement au département d'outre-mer, des Caraïbes, et également la Guyane. Donc ça, c'est une diapositive pour vous expliquer un petit peu le mécanisme de transmission possible autochtone en France métropolitaine, notamment. Et cela n'est pas forcément quelque chose d'évident, dans la mesure où il faut plusieurs conditions pour qu'une transmission autochtone puisse être possible. Il faut qu'il y ait dans la même unité de temps et de lieu, donc au même endroit et au même moment, en tout cas dans un laps de temps court, présence du vecteur, donc du moustique, et c'est le cas en Gironde, a priori, il est implanté. Il a été retrouvé à plusieurs reprises en 2012, avec confirmation en 2013. Donc, voilà, on considère qu'il est implanté dans le département. Voilà, il faut également une population naïve, c'est-à-dire une population qui n'a jamais contracté la pathologie en lien avec l'un et l'autre virus, même s'il y a des sous-types et des nuances à apporter à ce point. Globalement, il faut que la population n'ait pas été atteinte de cette maladie et donc soit réceptive à la maladie, n'ait pas un système immunitaire qui lui permette de lutter contre cette maladie. Voilà, et la dernière chose, il faut qu'il y ait importation de cas virémiques, c'est-à-dire de voyageurs qui se seraient fait contaminer lors d'un voyage, c'est-à-dire transmission du virus à l'issue d'une piqûre de moustique, et qui reviennent au moment où ils ont ce virus dans leur sang, ce qui prend un peu, continue pendant 5 à 7 jours à l'issue des premiers symptômes. Et quand on a ce faisceau de conditions, eh bien, il y a la possibilité pour le moustique qui est sur place de venir piquer le voyageur qui a du virus dans le sang, et après le cycle intrinsèque du virus dans le moustique, ce moustique pourra, qui est court, ce moustique pourra à son tour piquer un résident naïf, on va dire. Voilà. Et là, on aura un cas autochtone, c'est-à-dire un cas contracté à l'endroit sans contexte de voyage. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on craint. Parce que si voilà, le moustique il peut vivre assez longtemps, il peut piquer un certain nombre d'individus et donner plusieurs cas. Voilà. Et le cas virémique, donc le voyageur malade, peut lui également se faire piquer par plusieurs moustiques. Donc on multiplie les risques dans ce contexte d'avoir une épidémie de dengue et chikungunya, d'autant plus que la population n'est pas préparée et la majeure partie de cette population est naïve. Donc va développer la maladie. Voilà, et ce sont des choses qui ont pu être observées à plusieurs reprises dans le passé, spécifiquement en France en 2010, avec deux cas de dengue et deux cas de chikungunya dans le sud de la France, et également en 2013, un cas de dengue, également dans le sud de la France. Et si on remonte un tout petit peu plus en amont, il y a également des cas qui ont été déclarés en 2007 et 2010, et notamment en Italie, avec 250 cas voilà, dans la région d'Émilie-Romagne. Donc au nord, plutôt au nord de l'Italie. Donc suite à ce contexte de risque épidémique en France métropolitaine, il a été mis en place en 2006 un national, dit plan d'antidissémination de la dengue et du chikungunya en métropole, avec plusieurs niveaux de risque qui dépendent de la présence ou non du moustique, donc du fait qu'il ait jamais été trouvé ou qu'il ait été observé. Donc ça, on reste dans le niveau 1, donc c'est au niveau vraiment du moustique, au niveau 0, pardon, avec des nuances 0A à 0B. Un niveau 1, et donc niveau qui correspond à la situation actuelle en Gironde, où le moustique est implanté et actif, c'est-à-dire qu'il a été repéré à plusieurs reprises sur plusieurs années de suite. Et ensuite, il y a tous les autres niveaux qui prennent en compte le paramètre humain et notamment de cas autochtones. Donc, ce plan, donc, il est national, il est structuré, il prévoit pas mal de choses, et notamment une double surveillance, qu'on appelle une double surveillance, c'est-à-dire une surveillance à la fois épidémiologique, donc, qui est en lien avec les aspects sanitaires purs, donc, pour faire simple, qui renvoie aux patients, donc aux personnes atteintes, donc en l'occurrence de dengue et ou de chikungunya, parce qu'une co-infection est possible. Et ensuite, un deuxième aspect qui est plus celui vectoriel et qui renvoie à la surveillance entomologique de présence du moustique, donc en amont, pour pouvoir passer du niveau 0, du niveau 1, du niveau 0 au niveau 0, non, du niveau 0A au niveau 0B, du niveau 0B au niveau 1. D'accord ? Et ensuite, cette surveillance permettra de mener des actions de lutte supplémentaires autour des cas soit importés ou soit des cas autochtones pour essayer de limiter la possibilité d'épidémie, en tout cas la transmission de la pathologie. Donc, donc j'ai essayé de faire assez concis, simple, il y a vraiment pas mal de choses, voilà, mais la présentation se devait d'être courte. Donc j'ai retenu trois objectifs donc, que je viens un peu d'évoquer, c'est-à-dire la détection rapide des cas importés, donc, c'est-à-dire au retour de voyage, finalement la personne qui a de la fièvre, voilà, est-ce que c'est pas une dengue, est-ce que c'est pas un chikungunya, même si en premier lieu, dans un pays d'endémie palustre, on va penser au paludisme. Donc, et ça va être pour prévenir la transmission, prévenir l'arrivée de cas autochtones, selon le schéma que je vous décris précédemment. Ensuite, le deuxième point, c'est la détection rapide du coup, des cas autochtones, qui va permettre, comme dans le cas des cas importés, mais de façon un peu plus importante, d'orienter les mesures de contrôle autour de ces cas autochtones, qui vont peut-être orienter sur un foyer. Voilà, il y a quelque chose qui se passe autour du cas autochtone, manifestement. Voilà, et ensuite, le suivi des tendances de l'incidence des cas, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas qui soient importés ou autochtones, pour essayer de voir où on en est de la situation et pouvoir jauger et juger du coup de l'efficacité de la surveillance, de la lutte, des mesures de prévention. Voilà. Et donc les différents dispositifs sont en lien avec à la fois l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, donc qui elle est régionale, même s'il y a une délégation territoriale, donc Gironde, c'est vraiment le niveau régional qui va gérer cette situation. Et également la CIR, qui est une cellule qui émane de l'Institut national de veille sanitaire au niveau régional. Donc il y a un travail qui se fait en collaboration entre eux et des investigations qui sont menées par cette dite CIR. Et donc la CIR est informée des cas confirmés dans une situation où le plan donc Albopictus n'est pas activé. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que ce plan est donc activable toute l'année pour un certain nombre de mesures, et pour les niveaux qui dépassent le niveau zéro, il y a un arrêté préfectoral annuel qui statue sur la zone de lutte, de surveillance. Voilà. Et du coup, de cette zone découle un certain nombre de mesures. Il y a aussi un aspect de temporalité, c'est-à-dire que l'arrêté est valable et court du mois de mai au mois de novembre. Donc, dans la situation où on se trouve en dehors de cette période, où on se trouve dans un département ou une zone, en tout cas, qui n'est pas classée 1 selon l'arrêté, il y a une déclaration de base qui existe et qui consiste à déclarer tous les cas confirmés. C'est-à-dire biologiquement, on a la preuve biologique que la personne est atteinte de dengue ou de chikungunya, d'accord ? Et cette déclaration se fait au niveau national et au niveau de l'Institut national de veille sanitaire. Donc dans le cas particulier de la Gironde, entre le mois de mai et le mois de novembre, il y a ce qu'on appelle une surveillance renforcée, qui est réalisée par les cliniciens et les biologistes, qui sont sensibilisés en amont, et autant que faire se peut, c'est pas toujours facile. Là, il faut déclarer les cas suspects. C'est-à-dire, si on pense à la dengue ou au chikungunya, il faut prévenir les autorités, d'accord ? Parce que le diagnostic peut être rapide ou peut prendre voilà, quelques jours. L'idée, c'est d'être le plus rapide possible pour faire une enquête autour des cas, d'accord ? Qu'elles soient épidémiaux, mais aussi entomologiques, et je détaillerai ce point juste après. Voilà, et après, en parallèle de tout ça, il y a un niveau national qui sert notamment lorsque le plan est activé en niveau 1 dans les dates de l'arrêté préfectoral, qui consiste à récupérer les données des plus gros laboratoires français et de pouvoir les analyser au niveau régional par les CIR et de pouvoir rattraper ce qui n'a pas été déclaré spontanément, donc de façon... voilà, spontané par les cliniciens et les biologistes, pour essayer de faire un maillage des cas. Et donc le deuxième point, c'est la surveillance entomologique. Donc surveillance épidémio, on s'occupe des cas, voilà, des patients potentiellement virémiques. Et donc ces patients virémiques, ils seront, voilà, les patients ne seront pas traités de la même façon. C'est-à-dire qu'ils seront en phase virémique, comme on l'a vu tout à l'heure dans les conditions de transmission, ben, ce sont les patients qui nous intéressent, en tout cas pour la lutte, la surveillance. S'ils ne sont pas virémiques au moment de leur arrivée en métropole, il n'y a pas de risque de transmission. Et après, il y a le cas intermédiaire où ils viennent nous voir alors qu'ils ne sont plus virémiques. Il faut quand même qu'on remonte à leur arrivée en France et qu'on puisse déterminer par où ils sont passés et voir si à ces endroits, il y a du moustique ou pas, du moustique vecteur. Voilà. Et ça, c'est le rôle de nos collègues, notamment de l'établissement interdépartemental Atlantique, qui s'appelle l'EID Atlantique, qui est l'opérateur de surveillance et de lutte antivectorielle. Donc cette surveillance, elle est arrêtée par l'arrêté préfectoral qui a lieu annuellement, comme je vous l'ai dit, au niveau du département. Et le point important, c'est qu'il couvre le domaine public, mais également le domaine privé, en tout cas pour la lutte. Et pour la surveillance, voilà, le fait de pouvoir poser des pièges pondoirs au niveau des jardins des gens n'a jamais posé problème à cet opérateur a priori. Et donc la surveillance consiste à mettre des pièges pondoirs, c'est-à-dire des pièges dans lesquels les moustiques vont pouvoir pondre, et comme ça on va pouvoir identifier les œufs d'Aedes albopictus. Donc il y a des pièges adultes également, mais voilà, c'est plutôt les pièges pondoirs qui sont utilisés. Donc il y a un maillage qui est réalisé au niveau donc régional, et en l'occurrence au niveau de la Gironde également, avec une répartition des pièges en fonction donc des axes autoroutiers, mais également des lieux les plus propices voilà, à l'implantation du moustique. Et de 2013 à 2014, nous sommes passés du niveau 0B au niveau 1 du plan, c'est-à-dire présence du moustique à moustique implanté et actif. Et donc, le nombre de pièges a sensiblement augmenté, notamment du fait de l'augmentation des pièges pondoirs au niveau de la Gironde. Et donc, on est passé de 241 pièges à 348, à titre d'exemple. Voilà. Et donc, ces pièges sont posés en limite de zone déjà reconnue infestée, pour avoir une information sur l'extension de cette zone et l'extension de l'implantation, mais également au niveau des territoires non colonisés, donc soit au niveau des entreprises. Voilà, l'importation des moustiques par l'importation de pneus n'est pas exceptionnelle. Voilà, également au niveau des points d'entrée du territoire, parce que les voyageurs potentiellement virémiques, quand ils arrivent voilà, soit au niveau d'un port, plus facilement au niveau de l'aéroport, là, en Gironde. Et donc, il y a une surveillance particulière. Il y a une surveillance particulière aussi au niveau des établissements de santé, sous la responsabilité des établissements de santé, sous couvert d'une formation des personnels pour la prospection. Et voilà, l'établissement interdépartemental Atlantique n'interviendra que s'il est sollicité par l'établissement de santé. Donc la surveillance peut émaner aussi du développement de la veille citoyenne, c'est-à-dire que ce sont les particuliers qui vont aller déclarer, donc soit à l'EID Atlantique, soit à l'ARS, soit à nous, et on fera le relais. Et ben la présence de ce qu'il leur paraît être un moustique tigre. Et donc à ce moment-là, il y a une enquête qui peut être déclenchée à cet endroit. Et chose spécifique au niveau 1, c'est également l'enquête entomologique autour des cas suspects, dans la mesure où ces cas ont été signalés par l'ARS et validés par l'ARS, c'est-à-dire les zones par lesquelles le patient suspect de Dengue Chikungunya est passé dans la période où il était censé être virémique. Et donc, la surveillance entomologique pourra conduire à la lutte antivectorielle. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est dans la mesure, dans une large mesure encadré. Et ça peut toujours susciter un certain nombre d'interrogations, de problèmes entre le risque sanitaire, le risque écologique à traiter. Voilà, donc ça c'est, je pense, un débat qui peut vous intéresser, sur lequel je ne suis pas forcément compétent, mais voilà, qui peut faire le lien en tout cas entre les aspects que j'ai pu percevoir de votre labex. Et donc, la lutte se fait autour des cas signalés, dans la mesure où il y a une densité voilà, vectorielle particulière d'Aedes albopictus. Voilà. S'il y a présence d'Aedes albopictus, l'EID a la possibilité de traiter sur le domaine public ou sur le domaine privé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc avec des traitements larvicides ou adulticides en fonction des prospections, en fonction de l'enquête. Et il a été décidé que ça serait conduit par voie terrestre pour essayer de limiter les zones et de vraiment cibler cette démoustication, en évitant si possible les zones Natura 2000 et de toute façon en informant l'ADREAL, les communes, et en encadrant ça par, et c'est pas toujours facile de ce que j'ai pu comprendre, de contrôle de l'efficacité des mesures entreprises. Voilà. Donc je remercie les différentes équipes qui ont pu me fournir des informations sur cette thématique.
Merci beaucoup. Voilà.